Bonjour et bienvenue sur Quoi de Neuf. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui rythme la vie et occupe les années en prenant parfois plus de place que l'on ne voudrait, le travail. Nos occupations quotidiennes ont-elles un sens? Trouvons-nous du plaisir à travailler ou est-ce une corvée dont on ne peut se départir? Enfin, quel présent et quel avenir pour le travail? C'est la revue de presse.
Sensationnel, voilà France Soir!
Demandez France Soir, Paris Presse, Le Monde! Demandez le Figaro littéraire!
La revue de presse.
Bienvenue dans cette revue de presse où nous explorerons deux sujets, à commencer par les jeunes et le travail. Une problématique revient dans deux articles relayés par Courrier International, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Cette question inquiète tout particulièrement les jeunes, pour qui le salaire est également un sujet d'inquiétude récurrent dans un contexte économique tendu. Un article de The Guardian, relayé par Courrier International, se penche sur la difficulté de la Gen Z à passer un entretien d'embauche. Les employeurs envisagent d'embaucher des personnes plus âgées. Pourquoi ? Sont souvent mis en cause la tenue vestimentaire, la difficulté à maintenir le regard et des exigences salariales trop élevées. Mais, The Guardian nuance, cette fainéantise que l'on attribue volontiers aux jeunes générations serait plutôt une désillusion. Je cite. Ces nouveaux jeunes salariés savent qu'ils vont subir un équilibre travail-vie privée réduit et des salaires qui ne suivent pas l'inflation, ainsi que des licenciements brutaux. Peut-être que les jeunes sont nuls lors des entretiens parce qu'ils n'ont pas vraiment de quoi s'enthousiasmer une fois qu'ils obtiennent les postes. The Bloomberg met l'emphase sur le ras-le-bol des jeunes asiatiques vis-à-vis de leur journée à rallonge. Cette tendance est révélée par une étude LinkedIn. 77% des jeunes travailleurs asiatiques sont à la recherche d'un nouveau travail. Ces décisions sont motivées par un désir d'un meilleur salaire et d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Je cite... Le désir d'un salaire plus élevé est probablement lié au besoin de sécurité financière dans un environnement économique qui a été difficile au cours des deux dernières années, explique Pooja Chhabria chez LinkedIn, alors que l'inflation a sévèrement écorné le pouvoir d'achat des salariés aussi bien en Inde qu'en Australie. Mais le désir d'un mode de vie plus équilibré apparaît comme le second facteur déterminant. Pendant ce temps, le Figaro nous fait voyager avec ses jeunes saisonniers pas mécontents de travailler tout un été, à travers plusieurs portraits, dont celui de Zoan. À 16 ans, la jeune serveuse au Puy du Fou a été motivée, non pas par l'argent, mais bien par l'expérience, l'envie de découvrir le monde du travail. Je cite « Pour cette future prof d'espagnol, cette formation ne sert en soi à rien, sauf à découvrir ce que sont un rythme chargé et l'esprit d'équipe. Elle ne regrette pas ses vacances, je passe de très bons moments. Une expérience agréable donc pour cette étudiante qui n'a pas la nécessité de travailler, mais regrette un manque d'expérience professionnelle dans notre système scolaire. » Maintenant, nous allons aborder un thème difficile mais essentiel, la mort au travail. Deux personnes meurent chaque jour en moyenne dans un accident dans le cadre de leur emploi. Ce chiffre sous-estimé n'intègre pas les suicides ou les maladies et il illustre un problème systémique. Si les accidents sur le lieu de travail menant au décès sont souvent relégués à la case des faits divers, c'est bien parmi les faits de société qu'ils devraient se placer. Ces drames indiquant une faille dans notre système est étudié par Mediapart et Le Monde, qui ont chacun consacré des dossiers d'articles sur le sujet. Ces drames touchent les travailleurs de façon inégale, comme nous le rappelle l'article de Le Monde, je cite. Il s'agit d'un phénomène qui touche davantage les ouvriers que les cadres, les intérimaires que les salariés en CDI, les employés de sous-traitants que ceux qui travaillent pour les donneurs d'ordre. Certains employeurs n'hésitent pas non plus à recourir à une main-d'œuvre jeune et inexpérimentée qui n'a pas toujours les moyens ni la présence d'esprit de contester des conditions de sécurité inacceptables. Dans le dossier de Mediapart, la mort au travail semble toucher tous les secteurs ouvriers. De Décathlon à la SNCF en passant par les chantiers des JO, des morts dans l'indifférence et la quasi-impunité des entreprises qui mènent à la banalisation de ces drames. Le Monde a consacré aux accidents de travail une série d'articles qui montrent que, dans la plupart des cas, ce sont les négligences, le non-respect des règles, la course à la rentabilité, le recours excessif à la sous-traitance ou bien l'addition de toutes ces causes qui sont à l'origine des drames qu'il faut à tout prix chercher à éviter. Je cite « Agir uniquement sur le cadre répressif ne permettra pas une transformation en profondeur. Un changement de mentalité doit être mené. Tant que la sécurité sera assimilée à un coût et non à un investissement, les changements resteront marginaux. Les leviers d'amélioration sont connus, solutions techniques, organisation du travail adaptée, messages martelés et formation permanente. La sécurité au travail est l'affaire de tous, y compris des clients, qui ne doivent pas accepter que leur chantier se déroule dans de mauvaises conditions afin de faire des économies. Si le risque zéro n'existe pas, il tient à chacun de nous d'en faire un objectif. C'est la fin de cette revue de presse. Et si nous parlions de la souffrance au travail ? Dans ce magasin, les employés font la tête. Le caissier lance un regard en biais à son collègue. Pas de doute, il y a une tension dans l'air. Un dédain royal pour ses collaborateurs, une légère animosité envers sa hiérarchie, quelque chose ne va pas. La psychologue du travail Marie-Odile Legrand propose une explication à ces tensions devenues banales dans le milieu professionnel. Quand l'ambiance au travail devient insoutenable, que le réveil est source d'angoisse, une injonction s'impose dans les esprits, il faut s'endurcir pour affronter le monde professionnel. Y aurait-il des forts et des faibles, des gens capables de faire face et d'autres manquant de force de caractère ? Marie-Odile Legrand détruit d'emblée le mythe, il n'y a pas de forts et de faibles. Cette approche n'est plus beaucoup défendue aujourd'hui, mais a été longtemps défendue par le patronat. Mais alors, quelle est la cause de ces difficultés ? Il y a fort à parier que les acteurs seront malades si les facteurs organisationnels ne sont pas au rendez-vous, nous explique Marie-Odile Legrand. L'attention se détourne donc de l'acteur pour se concentrer sur le décor. Combien de clients dans ce magasin et combien de salariés pour répondre à la demande ? Ces travailleurs reçoivent-ils les ressources, le temps, l'écoute et la marge de manœuvre nécessaires pour s'épanouir dans leur travail sans que le besoin d'écraser l'autre ne les envahisse ? Si on change les acteurs, tous tomberont malades si les facteurs organisationnels ne sont pas de qualité. Vous, moi, votre voisin, nous tomberions tous malades. Pourtant, le réflexe commun est d'observer les premiers concernés. D'ailleurs, ces concernés, que peuvent-ils faire ? Une solution miracle pour éviter le stress, l'angoisse et un potentiel burn-out ne serait pas de refus. En se basant sur le témoignage de Marie-Odile, nous comprenons que la problématique ne se limite pas à la façon de gérer les relations interpersonnelles. Il faut regarder au-dessus. Or, un employé est rarement en position de remanier la structure de son entreprise. En parler au manager, s'ouvrir sur ce qui ne convient pas peut être une solution lorsque l'on est déjà ancré dans une entreprise que l'on ne souhaite pas quitter. Mais rapidement, une peur survient, un ennemi tapis dans l'ombre, prêt à vous bondir dessus, le licenciement. Un salarié est-il en position de proposer des critiques constructives à sa hiérarchie sans risquer sa carrière ? Le salarié se sent vulnérable et impuissant face à une entreprise qui peut embaucher quelqu'un d'autre à tout moment. C'est un des symptômes d'une société où le chômage touche 7,4% de la population française. Et si on inversait les rôles ? Une nouvelle dynamique est lancée par une partie de la Gen Z, donc les personnes nées entre 1997 et 2010, et cela commence sur les réseaux sociaux. Alors que Orna officiel joue des scènes de travail en représentant des managers ou collègues abusifs, Loé Wiley montre comment aller poser des barrières face à une hiérarchie qui en demande toujours plus. Mettre en garde les nouveaux arrivants contre certains abus, c'est la mission qu'elles se sont attribuées. Les réactions sont massives, les internautes partagent leurs expériences de travail, signalent ce qu'ils trouvent dérangeant dans les propos des collègues ou de la hiérarchie et s'informent de leurs droits. Le pouvoir de dire non est mis en avant. Le salarié n'a pas obligation de se plier aux exigences de la hiérarchie ou à une culture d'entreprise abusive. Ce revirement de situation fait redouter à certains patrons d'embaucher des jeunes. Leur exigence est assimilée à de la flémardise. Julia de Funès réagit sur RTL. « Pour ma génération, le travail est une finalité en tant que telle. Pour les jeunes, le travail n'est pas une finalité, c'est un moyen. Les gens ne veulent pas perdre leur vie à vouloir la gagner. » Lorsque l'affirmation de limite gagne une génération entière, c'est la société, et non le salarié, qui doit s'adapter. Maintenant, si nous parlions de la valeur que l'on accorde au travail. J'ai lu le livre « Bullshit Jobs » qui m'a laissé une forte impression, c'est le biais d'humeur. Je voudrais vous poser une question que je me pose moi-même depuis un certain temps. Avant d'être étudiante en lettres modernes et journalisme, j'ai étudié la communication pendant 2 ans. Et il y a une question qui n'a pas cessé de me hanter durant mes études. Pourquoi un publicitaire gagne facilement le double du salaire d'une infirmière, en taux horaire ? Vraiment, je réfléchissais à ce qu'on allait faire comme travail dans la communication, et bien que je voyais l'utilité de mon futur métier, je ne le trouvais clairement pas plus utile que celui d'une infirmière, ni plus difficile. Ça m'a amené à la question, comment établissons-nous la valeur travail ? Parce que si le salaire est le reflet de notre utilité dans la société, alors ça voudrait dire qu'un professeur est moins utile qu'un trader, qu'un infirmier est moins utile qu'un banquier et qu'un éboueur est moins utile qu'un footballeur. Alors je sais ce que vous avez envie de me dire. Oui, mais tu comprends, c'est pas comparable. Les traders, banquiers et footballeurs créent plus de valeur. Ou bien, ces métiers sont plus élitistes. Ou enfin, finalement, ça obéit à une logique propre au capitalisme. Bah oui, je me doute bien que, pour que ça arrive, il faut que ça obéisse à une logique propre à notre modèle économique. Mais est-ce que ça fait sens ? Aujourd'hui, on trouve tout à fait sensé de verser plusieurs milliers d'euros aux investisseurs de Total, mais pas à une mère. Crée-t-elle moins de valeur qu'un actionnaire chez Total ? Ou qu'un trader ? Qu'est-ce qu'on considère comme ayant de la valeur ? Je voudrais qu'on se pose des bonnes questions. Comment valorisons-nous un travail ? Parce que, fondamentalement, quel est le but d'un travail ? de participer à la vie en société, d'aider la communauté d'une façon ou d'une autre. Alors comment se fait-il que les métiers les plus utiles soient les moins bien rémunérés? Cette réflexion n'est qu'une parmi tant d'autres qui nous ferait tout simplement dire « ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça ». Et je sais que je suis loin d'être la seule à me faire cette réflexion. David Graeber, un docteur en anthropologie, a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Bullshit Jobs », que je vous conseille vivement. « Bullshit Jobs », qu'on peut traduire par « job à la con », c'est-à-dire un travail qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. On ne se doute pas qu'à l'intérieur de ce livre, à la couverture orange flashy, se cachent des études qualitatives sur le sujet du job à la con. Alors, quand je dis études qualitatives, je me doute que ça peut paraître trop technique ou rébarbatif pour certains, mais je vous assure, ça désigne tout simplement une série d'entretiens avec des personnes qui partagent leur expérience plus folle les unes que les autres avec le monde du travail. Ce sont plein d'histoires de personnes qui racontent comment ils ont vécu l'absurdité du monde du travail. Un monde où ils se sont sentis extrêmement inutiles et en sont même venus à avoir honte de gagner un salaire pour ce qu'ils faisaient. Alors, sur ce sujet des métiers peu utiles mais très bien payés, est-ce que c'est tout ? On s'arrête là ? Je m'adresse à ceux qui sont vraiment décontenancés face à ces réflexions. Que pouvons-nous faire là-dessus ? Le but n'est bien sûr pas de moraliser, mais de proposer une réflexion, un pavé dans la mare. Je pose ça là. C'était le billet d'humeur. Si nous remettons en question le fonctionnement du travail, il faut savoir d'où nous partons. Comment s'organiser le travail autrefois? Lilian Camille nous répond dans une interview sur l'histoire du travail au Moyen-Âge. Bonjour Lilian, vous êtes étudiant en Master 1 d'Histoire à Nice. Vous souhaitez vous spécialiser dans les images politiques médiévales. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de l'histoire du travail à l'époque médiévale.
Eh oui, Jade, vaste terme pour une réalité tout aussi vague. Car qu'est-ce que l'on entend par travailler? Quand on est par exemple un vassal opérant pour un seigneur, un artisan ou alors un prêtre faisant son office, tous procèdent à une chose ou un effet et font à leur manière un travail. De ce fait, parler de la vie de travail, hormis si l'on s'attarde sur un exemple précis, l'exemple type sur un paysan, pourrait s'avérer être une tâche complexe et longue mais non pas impossible. Cependant, pour les besoins de cette émission et le supplice qu'il serait de m'entendre parler du tissage de la laine et de son commerce entre le 9e et 14e siècle, une vision générale est de mise. C'est pour cela que plutôt que de parler de la vie travail, l'on va parler plutôt du concept travail à l'époque médiévale et donc des réalités qu'il comprend.
Alors, vous nous dites le mot travail, mais est-ce que ce mot avait la même définition à l'époque médiévale ?
Au Moyen-Âge, en fait, il y a deux termes qui se sont imposés pour rendre compte de deux aspects différents de la forme d'activité, opus et labor. Le terme de labor induit une action directe du corps qui est jugée pénible, fatigante et donc contraignante pour ce dernier. Là où opus, plus fréquente, quant à lui, désigne une action liée à un processus de création, souvent le métier de l'artisan, et que l'on peut traduire par le terme d'œuvre. En fait, le mot travail, quant à lui, est beaucoup plus rare. L'étymologie traditionnelle, qui le ferait dériver de tripalium, cet instrument de torture, est d'ailleurs abandonnée par les historiens. La tradition chrétienne et les écritures font d'ailleurs état de ce labeur. Le travail a longtemps été dévalorisé, idée selon laquelle il fut imposé par Dieu comme un châtiment, conséquence directe du péché originel, ou comme cela dit dans la Genèse, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
Donc, le travail était globalement dévalorisé, mais est-ce que, comme de nos jours, certains emplois étaient connotés ?
Un discrédit attaché à la pratique manuelle s'applique par exemple à l'artiste, bien que ce terme ne soit créé qu'à partir de Dante. Cette activité manuelle était jugée comme servile. Alors, pourquoi ce terme ? En fait, il fait référence aux arts dits libéraux, par opposition aux arts serviles. Les arts libéraux sont les disciplines enseignées depuis l'Antiquité gréco-romaine. Elles sont sept, divisées en deux groupes, un axé sur les lettres, le trivium, l'autre axé sur les sciences dures, le quadrivium. Nous avons donc affaire ici à des activités éminemment intellectuelles menant à l'acquisition de la haute culture. Et par opposition sont donc placés les arts serviles, issus de la science de la pratique. C'est à Paris, par exemple, peu avant 1137, que le maître Hugues de Saint-Victor ajoute à la liste des arts dits libéraux ces arts serviles. Par exemple, on peut mettre la fabrique de la laine, le théâtre, la médecine ou encore la chasse. Toujours Hugues de Saint-Victor définit les arts serviles comme des sciences adultères, car étant, selon lui, des sciences destinées aux gens du peuple. Là où justement les arts libéraux s'adressent aux hommes libres. Reprenons notre exemple de l'artiste. L'artiste est vu comme un homme incomplet, car il use de ses mains, et il est donc associé à l'image de l'esclave. Ce discrédit attaché à la pratique des beaux-arts, considéré comme « servile » entre guillemets, pèsera longtemps sur la condition sociale des artistes. Et ce n'est que le contexte socio-culturel de la Renaissance italienne qui a permis une élévation sociale de ces derniers. Désormais, les artistes ne sont plus considérés comme des artisans. Ils travaillent pour les puissants, qu'ils soient des nobles ou des seigneurs, et seront même promus dans leurs cours et considérés. C'est le cas par exemple de Giotto, Simone Martini ou encore Vasari.
Et alors, de nos jours, la vision du travail est totalement différente. Comment la perception du travail a évolué ?
En fait, les réticences de l'Église envers le travail productif, jugé vil et dégradant, comme j'ai pu l'évoquer, disparaissent peu à peu avec la réhabilitation de l'artisan comme homo artifex, un terme que l'on pourrait traduire par homme artisan ou alors homme créateur, celui dont l'activité prolonge celui du créateur mais avec un C majuscule. Une promotion utile, certes, mais qui ne s'applique pas à d'autres catégories sociales, elles aussi travailleuses. Par exemple, le marchand, qui lui ne produit rien de ses mains. Pour l'Église, le marchand ne se borne qu'à vendre des objets fabriqués par d'autres. De plus, il pratique souvent l'usure, c'est-à-dire le trafic de l'argent. Le travail artisanal fait l'objet, dès le XIIe siècle, d'une réhabilitation certaine. On peut se demander d'où vient cette réhabilitation. Eh bien, ne serait-ce que grâce à certains intellectuels comme les universitaires. Ces derniers commencent à s'installer dans les villes et se considèrent eux aussi comme des travailleurs payés. La reconnaissance du travail qualifié s'opère aussi par l'Église. À partir de la fin du XIe siècle, mais surtout le XIIe et XIIIe siècle, les chantiers urbains, comme la construction des églises, mènent à la collaboration de différents métiers. On voit cette réhabilitation notamment par les images médiévales. Citons par exemple la cathédrale de Chartres. On peut voir dans ses vitraux des artisans au travail. D'autres images, qu'elles soient issues des vitraux ou des enluminures, représentent le chantier, faisant état de la richesse des métiers plausibles. La représentation la plus classique du chantier est issue de l'iconographie biblique, par exemple la construction de la tour de Babel. Mais qu'en est-il de l'organisation du travail? Est-ce qu'il y avait une structure professionnelle? Oui, mais différente de notre organisation contemporaine. Dans le Moyen-Âge du XIIe siècle, et surtout au XIIIe siècle, l'organisation du travail était du ressort des corporations. Alors qu'est-ce qu'une corporation? L'historien Jacques Le Goff l'a définie comme une association de marchands ou d'artisans spécialisés s'unissant pour défendre leurs intérêts.
Donc déjà au Moyen-Âge, les travailleurs créaient des sortes de syndicats?
Disons que désormais le métier est réglé, mais dans le sens de la réglementation. Alors précisons que ce terme de corporation ne fut créé qu'au XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, on parle plutôt d'art, de guilde, de hanse ou encore de métier. L'exemple le plus célèbre de cette organisation du travail est celui du Livre des métiers de Paris, rédigé vers la fin du règne de Louis IX. Le livre renferme 131 titres ou règlements de métiers parisiens comme le tavernier, l'ouvrier en fer ou encore le mesureur de blé. Certains métiers ont par ailleurs dans la capitale un statut spécifique car étroitement lié au roi. Par exemple, Fouque du Temple, menuisier du roi, contrôle les métiers du bois. Alors quels sont les effets et règles que posent les corporations? Certains métiers peuvent par exemple limiter le nombre d'apprentis afin de ne pas engorger la profession. Cette organisation engendre de ce fait plusieurs avantages comme accéder à des statuts juridiques approuvés et garantis par la commune et ou le souverain. Ils peuvent aussi bénéficier d'un monopole commercial dans leur activité. Désormais, tout travail libre ne faisant pas partie de la corporation est dès lors interdit. Pour le coup, c'est une réelle organisation sociale du travail qui s'opère. Le travailleur spécialisé dans son domaine appartient à une communauté, ou en latin universitas, une notion qui est très importante au Moyen-Âge.
Vous nous parlez de communauté, est-ce qu'elles étaient situées géographiquement en regroupement, comme aujourd'hui en France où il faut presque nécessairement passer par Paris pour accéder à certains milieux?
Eh bien en fait, Jade, la ville se veut un bon exemple d'étude de l'organisation sociale du travail. L'historien belge Henri Pirenne, dans son ouvrage « Les villes du Moyen-Âge », avança la thèse d'une renaissance des villes au XIe siècle, liée uniquement à la reprise du grand commerce. Un grand commerce stoppé entre le 8e et 9e siècle par les invasions normandes d'un côté et la conquête de la Méditerranée par les musulmans de l'autre. Une thèse aujourd'hui plus que remise en question mais qui importe en un point. La ville est un haut lieu du commerce et donc de facto lié à l'activité de travail. En somme, le réseau urbain s'organise sur trois types de villes. La petite ville, vivant du marché hebdomadaire des travaux agricoles et d'autres activités artisanales. La capitale de province et de diocèse qui regroupe des marchands et des artisanats plus nombreux. Enfin, les grandes métropoles proposant une gamme diversifiée d'activités commerciales, l'artisanat, l'industrie avec les moulins ou encore les pôles financiers à une échelle internationale. Par exemple, Paris rivalise avec Milan et Venise, seule ville à dépasser les 100 000 habitants à la fin du XIIIe siècle. Aussi, notons les villes des foires de Champagne qui vont bénéficier de cet essor à la fois urbain et économique. Organisées par les marchands et banquiers, elles permettent d'assurer la liaison entre deux grands espaces commerciaux d'Europe qui sont les Flandres et l'Italie du Nord. Le marchand cesse d'être itinérant, ayant la nécessité d'un endroit de vente fixe et régulier. Ces foires sont, comme l'avance Clément Noble, de dimension régionale et interrégionale au début du XIIe siècle. Organisées de façon cyclique, elles forment des marchés permanents où se rencontrent les marchands de toute l'Europe sur un axe nord-sud. Un parcours commercial qui n'est pas sans rappeler, comme le théorise le géographe Roger Brunet, cette fameuse dorsale européenne ou banane bleue en 1973.
Vous venez d'aborder les conditions géographiques du travail. Qu'en était-il du rapport au temps, qui est omniprésent dans notre société actuelle ?
Tout comme à notre époque contemporaine, le temps est une donnée primordiale quand on parle de travail. Et en cela, l'époque médiévale et son plus grand historien Jacques Le Goff nous le montrent à travers un article qui est très important, l'Occident médiéval et le temps. Ces nouveaux aspects du temps dans l'Occident médiéval peuvent être regroupés en quatre ensembles de changements. Le premier, l'apparition de nouveaux pouvoirs sur le temps, l'église chrétienne, la ville ou encore l'État. Le second, l'émergence de nouveaux mesureurs de temps, les cloches, l'horloge mécanique, véritable révolution technologique et, sous sa forme miniaturisée, la montre individuelle. En troisième, le développement d'une économie dévoreuse et calculatrice de temps. Et enfin, en quatrième, l'éclosion d'une nouvelle mentalité et de nouvelles sensibilités face au temps. Alors, on peut se demander comment cela s'organise au quotidien. Il en résulte pour Jacques Le Goff une construction du temps en quatre phases. Tout d'abord, le temps chrétien, un temps soumis à la religion chrétienne et à son institution qu'est l'Église. un temps cyclique, rythmé par les fêtes religieuses et de ce fait annuel. Un temps séquencé, ce qui est une chose nouvelle, en 7 jours. Désormais, il y a 6 jours de labeur pour un jour de repos. Ensuite, il y a le temps féodal. Il est le théâtre de nombreuses révolutions. Parmi elles, une révolution des technologies et de l'outillage, et une révolution de la perception du temps. Et là encore, l'Église fait autorité, à travers les communautés monastiques. Un élément pourtant anodin va marquer le temps et l'activité de travail, la généralisation de la cloche, entre le 6e et le 8e siècle. Le clocher s'intègre dans le paysage médiéval et fournit aux laïcs, et surtout aux paysans, un point de repère temporel dans leur travail. Ensuite, le temps de la ville ou le temps des marchands. La ville médiévale en plein essor, comme j'ai pu l'évoquer, est un centre économique qui est rythmé par l'activité commerciale des ateliers, ouvriers et artisans. Un centre qui est régi par le temps, mais qui voit le clocher devenu obsolète et inexact, car issu de l'action de l'homme. C'est l'invention de l'horloge au XIVe siècle qui va créer un temps uniforme, exact, qui est selon Lewis Mumford, un moyen de synchroniser les actions des hommes. Enfin, le temps moderne, où, comme le dit si bien Jacques Le Goff, le temps désormais c'est du pouvoir et c'est de l'argent. Le temps de la bourgeoisie urbaine est rythmé par son commerce, comme c'est le cas en Flandre avec ses drapiers. L'organisation du temps passe enfin par l'instauration d'un calendrier. C'est aux Romains que sont empruntés les 12 mois du calendrier julien qui commence le 1er janvier. Toutefois, il connaîtra des modifications avec une empreinte agraire propre au Moyen-Âge, c'est ce qu'avance l'historien Jean-Claude Schmitt. Cet ajout de l'image agricole dans le calendrier se retrouve dans l'art monumental avec les travaux des mois. Ces travaux des mois sont des guides utilisés par les agriculteurs pour planifier les activités agricoles tout au long de l'année. Ces calendriers étaient souvent illustrés de manière à représenter graphiquement les travaux agricoles à effectuer chaque mois, en fonction des saisons et des cycles naturels. Aux images calendaires du zodiaque se substitue une représentation idéale, sublimée par le sens chrétien du travail manuel et des activités des paysans, bon, à l'exception du mois de mai symbolisé par la chasse aristocratique. Par exemple, toujours selon Jean-Claude Schmitt, en février, ils, les paysans, taillent la vigne à moins qu'ils ne se chauffent les pieds devant la cheminée. En juillet et août, ils fauchent puis moissonnent. En septembre et octobre, ils récoltent puis foulent le raisin. Et en novembre, tuent le cochon.
Donc ce rapport au temps est propre à la religion plus qu'à la pratique quotidienne.
Eh bien oui, Jade. Il ne s'agirait pas de tomber dans l'écueil d'une organisation temporelle du travail comparable à la nôtre en tout point. Même s'il existe un temps féodal ou un temps des marchands, il ne faut pas oublier que le calendrier chrétien ne se veut pas pratique mais liturgique, avec une finalité cultuelle et pas tant culturelle.
Merci Lilian pour cette intervention.
Merci Jade.
Lilian Camille nous a permis d'y voir plus clair sur le passé du travail, mais quel est son avenir? Pour répondre à cette question, il faut se demander ce que nous attendons du travail. Source de compétitivité, simple occupation rémunérative ou moyen d'épanouissement personnel, il nous revient à la responsabilité de tenter d'orienter le monde professionnel dans la direction que nous souhaitons. Si nous nous indignons des accidents de travail ou de la souffrance dans le milieu professionnel, veillons donc les uns sur les autres et refusons fermement des situations injustes ou dangereuses pour nous ou nos collègues. Nous sommes nombreux à subir des conditions de travail qui ne nous conviennent pas, et bien que le sentiment d'impuissance gagne de plus en plus de terrain, il est encore temps de s'affirmer et de choisir la décision que nous voulons prendre. C'est la fin de l'émission Quoi de Neuf, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.